Troisième volet de nos vendredis en compagnie des romancières et des romanciers américains. Vous connaissez désormais le principe de ces grands entretiens, solliciter un autre regard sur les États-Unis après 4 ans de présidence Trump et à un peu plus de 2 semaines maintenant de l'élection présidentielle. François Bunel, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors nous sommes très heureux, François et moi, de recevoir aujourd'hui Britt Bennett. Bonjour.
Hi, thanks for having me.
Merci de me recevoir.
Et merci à vous d'être avec nous sur France Inter. Vous êtes à New York, Britt Bennett. Dites-nous en quelques mots, quelle est l'atmosphère dans la ville en ce moment, en temps d'épidémie de Covid?
Yeah, it's not quite as apocalyptic as it felt a few...
C'est, en réalité, je dirais que c'est pas aussi apocalyptique qu'on pourrait le croire. Ça commence à aller un petit peu mieux. Pour autant, effectivement, la ville de New York reste encore assez tranquille pour l'instant. Et tout le monde, bien sûr, attend les élections.
Britt Bennett, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps que François, vous nous présentiez notre invité. C'est un phénomène littéraire aux États-Unis.
Et un prodige. Elle a 30 ans, Britt Bennett, née en 1990. Elle a grandi en Californie, a voté pour la première fois, c'est important, lors de l'élection de Barack Obama. Et s'est imposée en 2014 grâce à un article coup de poing publié sur son blog d'étudiante qui dénonçait l'antiracisme consensuel et inoffensif. Il s'intitulait « Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs ». Britt Bennett incarne, à mon avis, le réveil d'une génération, mais elle est d'abord une remarquable romancière. Son premier roman a été un best-seller aux États-Unis et le deuxième, qui vient de paraître en France sous le titre « L'autre moitié de soi », est, Nicolas, d'une puissance inouïe.
Et pourquoi, François, ce roman vous semble-t-il important aujourd'hui?
Parce qu'il a été écrit sous le règne de Donald Trump et qu'il éclaire donc de façon encore plus lumineuse les enjeux de la question raciale aux États-Unis, mais aussi du statut de la vérité et du mensonge. C'est l'histoire de deux jumelles noires, mais à la peau, écoutez bien, presque blanche. L'une de ces jumelles va se faire passer pour blanche, ne plus donner de nouvelles. Elle change de peau, en somme. Et ça arrive un peu par hasard, sans qu'elle l'ait vraiment voulu. Sur un malentendu, on l'a prise pour une blanche. Elle n'a pas démenti, tout simplement. Elle joue donc un rôle, comme au théâtre. L'imposture est insoupçonnable, mais l'engrenage est en place et il est implacable. Peut-on devenir blanche quand on est noire, bâtir sa vie sur le mensonge, vivre dans une mascarade sans en payer un jour le prix aujourd'hui? Eh bien, voici quelques-unes des questions que pose ce grand livre sur l'identité et que signe Britt Bennett en digne héritière de Toni Morrison.
Ce roman, Britt Bennett, on pourrait le résumer dans le prolongement de ce que vient de dire François. Le résumer en disant que c'est une réflexion sur l'identité. L'identité, ce n'est pas un bloc, ce n'est pas fixé une fois pour toutes. C'est au fond quelque chose qui évolue, qui se construit et qui même s'invente.
Yeah, I do agree with that.
Je suis d'accord avec ça.
That was really the question that
c'est effectivement toute la problématique qui m'a amené à écrire ce livre. C'était cette question de l'identité, quelque chose qui, par essence, n'est pas aussi net que ça, en évolution constante. Qu'est-ce qu'on entend par ces identités, toutes ces règles qui sont mises en place au sein de la société? Elles ne sont pas si claires que ça, ces identités.
Expliquez-nous comment, aux États-Unis, il est possible qu'une jeune noire comme Stella, votre personnage, puisse être prise pour une blanche quasiment toute sa vie.
Oui, bien sûr. Ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, c'est toute la dimension historique, la question raciale dans sa dimension historique aux États-Unis qui a imprégné beaucoup la littérature américaine. Donc, on a ce personnage dans mon livre. Elle a effectivement la peau très claire, mais en réalité, elle est noire. Bon, il y a une confusion qui fait qu'on pense qu'elle est blanche et elle est embauchée pour cet emploi. À partir de là, son identité restera blanche.
Diriez-vous qu'il y a une forme de racisme également de la part de la population noire à l'égard de ces noirs à la peau blanche, mais dont le sang reste noir? On sait qu'aux États-Unis, c'est la théorie de la goutte de sang qui fait de vous un noir ou un blanc.
Ce que
vous voulez dire, cette question, effectivement, la goutte de sang qui a été un moyen de voir quelle était la race. Et c'est une des choses qui m'a intéressée, effectivement, dans ce roman. Qu'est-ce qui fait qu'on est blanc? Qu'est-ce qui fait qu'on est noir? Est-ce qu'on peut passer pour l'un ou pour l'autre? Et comment? Et aussi, comment est-ce qu'on se définit? Et ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette histoire, c'est que il faut pas oublier que ça se passe pendant les lois de Jim Crow, cet ouvrage dans ces années-là. Et à l'époque, c'était tout blanc, tout noir. Il y avait des catégories très clairement définies par ces lois.
Comment vous définissez-vous, puisqu'on vient de le dire, c'est un livre sur l'identité. Vous vous définissez comme une jeune femme américaine, une jeune femme noire américaine, une jeune femme afro-américaine ou une américaine tout court?
Je vous dirais une jeune femme noire américaine, probablement.
Et
alors que j'écrivais ce livre, justement, j'ai été confrontée à ces questions, vous savez, à la complexité de la chose. C'est tellement plus facile de regarder les gens, de se dire, voilà, il a tel âge, voilà son sexe, il vient de tel ou tel endroit. On fait des jugements un peu à l'emporte-pièce sur les gens. Et alors que j'écrivais, justement, ce roman, j'ai été amenée à davantage de nuances en me disant, je pars du principe que les gens sont ceci ou cela, mais est-ce vraiment ça?
Brit Bennett, François le disait en commençant, c'est un billet de blog qui vous a fait connaître aux États-Unis. Il s'intitulait, je le dis en français, « Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs ». Vous remarquiez qu'autour de vous, de plus en plus de gentils blancs, de good white people, s'indignaient du racisme, mais ils le faisaient de manière problématique à vos yeux. Alors deux questions, c'est quoi un good white people et pourquoi leur lutte contre le racisme vous semblait problématique?
Ce que j'avais à l'esprit, vous savez, c'est cette, si vous voulez, ces gens très ouverts que j'ai pu connaître à l'université, plutôt à l'école ou même pendant mon enfance, des gens très ouverts. On se retrouvait politiquement sur bien des choses, mais pas tant que ça. Au final, c'était plus compliqué que ça, et on le voit d'ailleurs, ça résonne actuellement. Vous savez, cette volonté de paraître bien ou d'avoir l'air d'être quelqu'un de bien plutôt que d'agir, de penser vraiment les choses. Et moi, je me disais, bah, finalement, les bonnes intentions, est-ce que ça suffit en soi ou est-ce qu'il faut aller au-delà des simples bonnes intentions?
Est-ce qu'on pourrait dire, Brit Bennett, que c'était un antiracisme un peu mou et qu'il faut peut-être quelque chose de plus dur, de plus radical?
Je ne sais pas. Bien sûr.
Lauren Jackson, who writes for the New Yorker, who
wrote par exemple, il y a Lauren Jackson pour le New Yorker qui disait que être antiraciste, c'est se détourner du fait d'être blanc. Et ce qu'elle disait, c'est que, si vous voulez, il y a une volonté, des velléités de s'éloigner de ce concept de blanc, mais qu'on n'en est pas vraiment au bout de ce processus. Les gens commencent à se former, à s'éduquer, certes, mais si c'est pour se fixer davantage encore au final sur ce que c'est que d'être blanc, je ne suis pas certaine que ce soit tellement utile que cela.
Dans cette note de blog, Brit Bennett, vous disiez qu'il y avait une vision clichée du racisme américain. Et d'ailleurs, dans vos romans, dans vos deux romans, hein, on peut dire que vous décortiquez aussi la représentation des Noirs dans la littérature et dans le cinéma. Vous pointez la persistance de nombreux clichés. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont en train de changer, par exemple dans la littérature, dans le cinéma, et peut-être même d'ailleurs dans les séries, que la culture peut-être prend le pas de la politique?
Je ne sais pas. Vous savez, on les trouve encore. Hein, ces choses-là, ce racisme qui est quand même là, flagrant, tout à fait visible. Hein. Même si c'est plus subtil désormais. Je pense que la pensée par rapport au racisme, elle est de plus en plus complexe et élaborée dans l'esprit des gens. Si on réduit, vous savez, le racisme à quelque chose de très simple, le méchant, le gentil dans les bandes dessinées, c'est très facile de dire, ça, ce n'est pas moi. Personne, je pense, quand on est blanc, se dit, ah voilà, plus blanc, je m'identifie à ces gens-là. Non, bien sûr, on ne va pas s'identifier avec des méchants. C'est facile. difficile de dire ça, c'est pas moi, c'est pas mon histoire. Mais justement, l'intérêt de ce livre, c'est montrer ça. Vous voyez, Stella, elle vit avec ces gens à Los Angeles, dans un quartier de blancs, de gens très bien. C'est pas du tout les racistes du Sud, les stéréotypes. Non, ce sont des blancs de Los Angeles, qui sont des gens très ouverts, dans un quartier plutôt aisé. Mais à la fin, ils sont aussi racistes que la communauté dont elle est issue, qui vient du Sud.
Le racisme est plus insidieux, dites-vous, Brit Bennett. Ça, vous l'écriviez dans la note de blog il y a quelques années. Est-ce que vous écririez la même chose aujourd'hui dans l'Amérique de Trump, avec le retour tout de même en force du suprémacisme blanc et d'une forme de racisme décomplexé?
Bon,
ces quatre dernières années, avec effectivement le gouvernement de Donald Trump, les choses sont peut-être plus évidentes. Des gens qui précédemment se cachaient un petit peu dans leur racisme le montrent beaucoup plus ouvertement, ça c'est vrai. Mais dans le même temps, je pense qu'on aurait tort de se concentrer trop sur ces gens qui montrent très clairement maintenant qu'ils sont racistes. Je pense que ce que l'on veut, c'est vraiment supprimer le racisme systémique qui est présent dans tous les aspects de la culture américaine, que ce soit dans les disparités de traitement en matière sanitaire, de logement, d'accès à la santé. Il y a des formes de racisme qui se retrouvent dans nos institutions et qui sont des formes silencieuses de racisme. Ce ne sont pas des blancs qui sont là en train de défiler pour dire qu'ils détestent les noirs. C'est effectivement plus compliqué que cela, mais ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est pointer du doigt le racisme là où il se trouve, dans tous les engrenages de la société américaine.
Alors vous avez raison, Brit Bennett, on va parler différemment du racisme et pas uniquement comme on vient de le faire, et vous avez bien répondu à ces questions-là, mais je voudrais qu'on parle de Black Lives Matter. Après la mort de George Floyd, tué, je le rappelle, par un policier blanc, est-ce que ce mouvement Black Lives Matter a repris de la puissance, de la vigueur à travers les États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'il a un avenir politique? Il semble avoir été un peu éclipsé dans la campagne présidentielle américaine, en tout cas vue de France.
Je ne dirais même pas qu'il s'agit d'un mouvement politique en réalité. À mon sens, bien sûr, il y a une intention politique, mais je ne pense pas que l'objectif des gens qui sont autour de ce mouvement, c'est de gagner du pouvoir politique. L'objectif, c'est de mettre la pression sur le personnel politique, amener les gens à adopter une réforme systémique, notamment du système pénal. C'est ça ce que demandent les gens. Je pense que effectivement, c'est assez facile de dire que ces gens-là sont des radicaux, en faire des gens un petit peu trop extrémistes, mais ça n'est pas ça. C'est vraiment un engagement de ces gens qui disent, et on est tous d'accord là-dessus, qui disent que la vie noire, elle compte tout autant que les autres.
Il y a une expression, Brit Bennett, qu'on entend désormais souvent en France et qui vient des États-Unis. C'est le concept de privilège blanc. Le fait pour les blancs de bénéficier, parce qu'ils sont blancs, de privilèges sociaux ou économiques. Ici, que je vous le dise en deux mots, la tradition républicaine est universelle et la République française est censée être aveugle à la couleur. Certains estiment en France que le privilège blanc est en fait l'autre nom de la culpabilité blanche. Par nature, quoi qu'on fasse. Quelle est votre position sur le sujet et comment vous pourriez expliquer ce qu'est le privilège blanc à des auditeurs français ?
Je pense que de toute façon, cette culpabilité ne sert à rien. La culpabilité, ça ne rend service qu'à celui qui l'éprouve, et encore. Donc je ne vois pas franchement l'intérêt de reconnaître que l'on a des privilèges. C'est déjà un premier pas. De la même manière que, vous savez, bon, moi j'ai la chance d'avoir deux chambres, je n'ai pas besoin de chaises roulantes pour me déplacer. C'est un privilège, ça aussi. Il y a des gens qui ont du mal à accéder à ce bâtiment, ça n'est n'est pas mon cas. Voilà, c'est un privilège, mais pour autant, je ne me sens pas coupable. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut simplement dire que je dois en être consciente de ce privilège, qu'il peut créer un préjudice pour d'autres personnes. C'est plutôt en ce sens qu'il faut réfléchir. Bien sûr qu'on a des privilèges, et pas simplement d'ordre racial, c'est une réalité. Le plus important, c'est de le reconnaître, être conscient des privilèges qui existent en disant « ça peut causer du tort à autrui » ou je me dis « le fait que j'utilise de telle ou telle manière, ça va pouvoir aider des gens ». C'est beaucoup plus, je pense, fructueux que d'être là et de se sentir coupable.
Nous sommes en train de découvrir en France la cancel culture, la culture de l'effacement, le fait d'effacer, de réduire au silence des pensées, des penseurs dont on estime qu'ils pensent mal. Une tribune signée par 150 écrivains et intellectuels de tous les horizons s'est inquiétée de la disparition de cette liberté de penser, de la liberté de penser aux États-Unis. Qu'avez-vous pensé, Britt Bennett, de cette démarche? Est-ce que vous diriez que la liberté d'expression est menacée aujourd'hui aux États-Unis?
Non. I don't think that that's
non,
a real thing.
Je ne pense pas qu'on en soit là. Je ne sais pas comment les choses se passent en France, mais en tout cas, quand il est question de cette fameuse cancel culture, vous savez, je dis toujours qu'il ne faut pas biffer les gens. De toute façon, ce n'est pas le cas. Même des gens qui ont été accusés, par exemple, de crimes d'ordre sexuel, ils ont continué à travailler. Des écrivains continuent d'écrire dans ce genre de situation aussi. Donc, vous savez, cette idée de supprimer ce cancel culture, c'est au final, est-ce qu'on a le pouvoir de supprimer quelqu'un de la vie publique, faire qu'il ne publie plus, qu'il n'écrive plus, qu'il ne soit plus sur scène? Non, c'est une chose que d'être malmené sur Twitter, mais c'en est une autre que de se voir empêché de publier. Et le jour où on va en arriver là, là je m'inquiéterai. Mais tout de même, jusqu'à présent, oui, c'est vrai qu'il y a des critiques, il y a des gens, vous voyez, par exemple, qui ont été malmenés par la critique et qui pourtant arrivent en tête des ventes.
Vous allez nous prendre, Britt Bennett, pour un peuple décidément très exotique, mais je voudrais quand même partager avec vous un dernier effroi. Ici, on a été tétanisés en voyant les normes, les nouvelles normes édictées par l'Académie des Oscars pour qu'un film puisse concourir dans la catégorie meilleur film de l'année. Il faut des représentations des minorités, leur donner un premier ou un second rôle très visible. Il y a une multitude d'autres impératifs pour faire des films d'ici quelques années. Comme romancière, c'est-à-dire comme créatrice, comme artiste, est-ce que le fait de mettre de telles normes à la création vous effraie?
Non.
Non, mais de toute façon, moi, je vous dirais, ces normes qui sont imposées aux Oscars ne sont pas inquiétantes du tout. De toute façon, cette catégorie diversité, elle est très importante. Elle inclut les femmes, c'est quand même la moitié de la population, les personnes de couleur, les LGBT, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde qui relève de la diversité. Et puis, non seulement ça, mais on ne demande pas que ces gens, forcément, soient acteurs, c'est des gens qui peuvent travailler au marketing des films, par exemple. Alors, moi, j'ai du mal à imaginer, si vous voulez, un film où il n'y aurait pas de femmes, il n'y aurait pas LGBTQ, pas de, non plus de personnes de couleur qui participent soit à la production, soit en tant qu'acteur. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis, on pourrait aussi faire un film avec que des hommes blancs, si vous le souhaitez. Simplement, vous ne pourrez pas concourir pour ce prix. C'est tout. Et vous savez, ça, c'est les Oscars, mais vous pouvez tout à fait concourir pour un autre Oscar qui serait réservé par exemple aux réalisateurs blancs. Enfin, je plaisante, mais pour vous dire que, à mon avis, c'est en fait une question qui ne devrait même pas se poser. Cela fait des années que des gens font des films, écrivent des livres, et ils vont continuer de le faire. Il faut bien reconnaître que le plus souvent, ceux qui ont été récompensés jusqu'à présent, c'était souvent des hommes, qui souvent étaient blancs. Donc l'idée d'ouvrir un peu le champ, ça m'apparaît plutôt comme une bonne chose.
Britt Bennett, on regarde en France avec une très grande attention la campagne présidentielle américaine qui arrive dans la dernière ligne droite. Depuis chez nous, on se dit que jamais votre pays n'a été divisé à ce point et que jamais non plus il ne pourra se réconcilier.
Je ne sais pas.
Je
serais tentée de dire non. Vous savez, déjà, on a eu la guerre de sécession à l'époque, donc la division, on la connaît. Je ne me sens pas, si vous voulez, en pleine panique non plus. C'est un moment de division, certes, avec des débats extrêmement polarisés. Et je pense que la réconciliation est possible. Hein. Bon, avec une présidence Biden, et puis au bout de quelques années, le temps passant, on aura peut-être un peu de calme qui va se faire après le chaos de ces quatre dernières années. Mais dans le même temps, c'est vrai que les médias sont extrêmement polarisés, les médias sociaux s'entendent, et ça, effectivement, ça anime considérablement ce sentiment, si vous voulez, de séparation et d'opposition. C'est vraiment boosté par les médias, ce sentiment.
Est-ce que Joe Biden vous fait rêver, Brit Bennett?
Non, je vais pas vous dire que je suis tombée raide dingue de lui. Vous savez, la première fois que j'ai voté au présidentiel, c'était pour Barack Obama. Donc non, je peux pas vous dire que j'ai le même enthousiasme cette fois-ci par rapport à Joe Biden. Enfin, quiconque fera l'affaire, hein. Tout le monde sauf Donald Trump, je prends.
Alors il y a quand même les traces de ce que Donald Trump aura fait pendant 4 ans et votre roman, Brit Bennett en parle d'une certaine manière. Changer d'identité, c'est le grand rêve américain, ça. Changer de vie, changer de peau, devenir quelqu'un d'autre, recommencer à zéro. C'est au cœur de votre roman. Est-ce que c'est encore possible, changer de vie, dans les États-Unis de Donald Trump?
Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été possible. De toute façon, la vie a toujours été complexe, loin du binaire. Et c'est exactement pour ça que d'ailleurs j'ai situé ce dernier roman dans une époque passée, à l'époque où les personnages vivaient ailleurs, dans un autre contexte, pour expliquer quoi que, eh bien, l'identité n'est pas toujours fluide. Reste à savoir si on a le langage pour communiquer son identité à soi. Mais je pense qu'effectivement, les gens vont pouvoir et continueront de changer d'identité à leur gré.
Brit Bennett, c'est une question qu'on pose à tous les invités de cette série sur France Inter dans le contexte actuel des États-Unis, que peut l'écrivain de fiction? Quel peut être son rôle et son utilité?
Écoutez, je vais essayer de répondre à cette question. Moi, je narre, je suis une narratrice. J'essaie d'imaginer d'autres manières d'être vivant. Et ces histoires, elles servent à cela. Toutes les histoires nous aident à développer l'imagination, elles nous aident à envisager d'autres possibilités que celles que nous avons sous les yeux. Alors, je dirais que mon rôle à moi, c'est peut-être celui-là. Mais je vous dirais quand même aussi que l'année a été vraiment très difficile pour tout le monde, dans le monde entier. Et s'il y a des récits, des histoires qui nous aident à traverser cette époque avec, pourquoi pas, de l'espoir et des bons moments ludiques et qui nous apportent de la joie et du bonheur, et bien c'est peut-être aussi ça le rôle de l'écrivaine. C'est des choses que nous devons faire, nous, particulièrement cette année qui a été assez difficile.
Eh bien, merci, un très grand merci. Merci à vous, Brit Bennett.
Merci.
On rappelle, François, le titre de son dernier livre.
Un livre qui apporte effectivement de la joie et du bonheur à ceux qui le lisent. L'autre moitié de soi, donc de Brit Bennett, traduit par Karine Lalechère, et c'est aux éditions Autrement.
Et à la semaine prochaine, François. Traduction, merci à Hélène Joguet. Réalisation, merci à Juliette Acus.